tout, et puis c'est pas très bon pour la santé.
Mais il fallait le faire.
Mais il fallait le faire nécessairement. Ça, c'était nécessaire. Au moment où on arrête l'économie, on ne va pas arrêter toutes les entreprises et puis aller laisser au tapis les entreprises et les emplois qui allaient avec. Maintenant qu'on était sorti de ça, le problème, c'est que tout le monde s'y est habitué. Il y a un problème social et un problème économique. On a l'impression qu'il y aura une politique publique qui pourra résoudre le problème. Or, malheureusement, dans notre économie, ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on est, encore une fois, dans cette drogue dure du découvert, du déficit, et qu'à un moment donné, si on veut une vraie économie qui crée de la valeur par simplement le travail ou par l'activité commerciale classique, eh bien, on ne peut pas fonctionner sous perfusion de subventions. Ça n'est pas possible de fonctionner sous perfusion de subventions, parce qu'à un moment donné, il faut se poser la question de qui paye ces subventions.
Alors, on va voir si vous avez des réponses, mais on va revenir, on va faire un petit retour historique avec une archive. Vous avez évoqué les années 70 à propos de l'inflation galopante. Eh bien, voici les années 80, les effets sur la consommation extrêmement inattendus de cette inflation. Extrait du journal de TF1 du 27 février 1980. C'était sous Valérie Giscard d'Estaing et Raymond Barre.
La reprise de l'inflation est un phénomène mondial. En janvier, les prix de détail ont augmenté de 1,4% aux États-Unis, de 3,3% en Italie, de 2,5% en Grande-Bretagne, de 3% en Suède, en France, de 1,9%.
Malgré cette flambée des prix, la consommation n'a pas fléchi en janvier. Bien au contraire, elle a constitué une pression supplémentaire sur les prix. C'est particulièrement vrai dans l'immobilier où, malgré les fortes hausses, la demande n'a pas cessé d'augmenter. Face à la reprise de l'inflation, les consommateurs décident en effet d'anticiper. Ils préfèrent acheter aujourd'hui ce qu'ils paieront demain plus cher. Aussi, ils retirent leur argent des livrets d'épargne et ils s'endettent en ayant largement recours au crédit. Devant cette attitude, le gouvernement s'apprête à réagir en donnant un nouveau coup de frein au crédit. Le crédit sera plus rare et plus cher.
Stéphanie Villers, vous l'avez dit, hein, à l'époque, indexation des salaires sur les prix, les gens anticipaient des hausses prix, donc ils consommaient, donc l'économie tournait, c'était aussi une drogue, l'inflation. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Inflation, croissance zéro, les gens vont moins consommer.
Oui,
moins.
Parce que déjà, on sort...
Ils n'y arrivent plus.
On a noté une baisse de la consommation.
Oui, de 1,3, moins 1,3. Donc, bon, ça fait suite quand même au trimestre précédent, qui sont les trimestres de fête, de fin d'année, où on dépense davantage. Donc, il n'y a pas réellement d'inquiétude majeure. Hein, c'est juste un essoufflement qui est lié au contexte global, où on sait que les prix augmentent et donc les ménages font plus attention à leurs dépenses. Hein. Alors après, en fait, la question, c'est, tout est une histoire de confiance en économie. Est-ce que les ménages vont se dire, c'est une phase transitoire et de toute manière, grâce aux chèques et aux subventions, on va pouvoir passer cette phase difficile et donc on courbe le dos et on va aller mieux? Ou les ménages vont se dire, avec les entreprises, là on est dans une période d'incertitude totale, on arrête de dépenser et vous savez que la consommation, c'est le moteur principal de la croissance française. Et donc on est dans cet entre-deux où aujourd'hui, en fait, les Français, que ce soit les ménages ou les entreprises, ne savent pas sur quel pied danser.
Pierre-Jacques Main, le SMIC a été revalorisé de plus 2,65%. Il passe à 1 302 € net au lieu de 1 269. C'est un geste, c'est suffisant?
Non, c'est sans doute pas suffisant. D'ailleurs, les syndicats demandent à ce qu'il y ait des négociations. Il y a effectivement cette augmentation automatique, cette revalorisation automatique qui est décidée là. Mais je pense que les syndicats demandent plus, demandent davantage de marge de discussion avec notamment les entreprises, les patrons. Sur le modèle de consommation qui vient d'être évoqué, justement, la crise que l'on traverse aussi en ce moment, on paye la fin d'un système, économique qu'on n'a jamais voulu remettre en cause. Le mode de consommation de masse qu'on a développé dès les années 70 arrive à bout de souffle aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qu'on paye. Et cette obsession permanente de l'économie par la croissance, on doit la remettre en cause. On paye aussi le fait qu'on n'a pas mis en place des politiques de transition écologique. Si on avait mis en place ces politiques de transition écologique, on serait moins dépendant aujourd'hui des énergies de la Russie et d'ailleurs. Et que donc, du coup, aujourd'hui, ce qui se joue avec le pétrole ou les uns les autres, il y a des systèmes spéculatifs où on fait augmenter les prix parce que le contexte y est favorable. Ça doit nous poser la question quand même. On est en retard énormément, mais aujourd'hui, on doit pouvoir remettre en cause ce système, ce modèle économique qui nous mène dans le mur.
On va évoquer le chômage avec vous dans un instant, Nadia, mais réaction de de la porte-parole du MEDEF, vous voyez sourire quand votre voisin disait
oui, parce que
on n'est pas allé dans la baisse de la transition
écologique. La baisse de la consommation s'explique par deux phénomènes. Un, le phénomène anxiogène de la hausse des prix, notamment sur le carburant, et le phénomène de la guerre. Donc ça, c'est anxiogène. Les gens ont des réflexes plus prudentiels.
Les gens ont peur des pénuries.
Et donc ne consomment pas. Il y a une deuxième chose qui est effectivement l'économie de la décroissance qui dit, au nom de la transition énergétique, écologique, il faut réfléchir à nos modèles et il faut se dire que peut-être on a trop consommé. Nous, on a une autre vision des choses et notamment le dernier rapport du GIEC, tous les scénarios qu'il propose sont quand même tous basés sur la croissance.
Du climat, pour ceux qui l'ignorent encore. Ils
sont quand même tous fondés sur des modèles de croissance parce qu'à un moment donné, si on veut se permettre de se payer la transition énergétique écologique, ça a un coût colossal d'investissement.
Alors je dis pas qu'il faut. La croissance, ça ne veut pas dire décroître, ça veut dire changer nos modes de production, changer nos modes de consommation.
Là où on va peut-être converger, c'est qu'on ne dit pas qu'il faut davantage consommer, il faut mieux consommer. Voilà.
Et mieux produire.
Alors Nadia, les chiffres du chômage. Donc.
Oui, ça c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne surprise que le gouvernement met en avant, en tout cas qu'il essaye de mettre en avant, le fait en effet que le chômage poursuit sa décrue, en l'occurrence d'après les derniers chiffres du ministère du Travail qui ont été publiés jeudi dernier, le nombre de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, il a reculé de 5%, un peu plus de 5% au premier trimestre 2022, hors Mayotte, je précise, plus largement. Si on se réfère aux données de l'INSEE, le taux de chômage s'établit à 7,4% précisément. Il est donc à son niveau le plus bas depuis 2008. Mais cette situation, ces indicateurs, ils méritent peut-être d'être nuancés, notamment parce que ces chiffres, on en parle souvent, ils prennent pas en compte ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire les gens qui souhaitent travailler mais qui ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. On pense par exemple aux personnes handicapées ou aux parents qui n'ont pas de mode de garde. Le plus souvent, ce sont des mères, et ça, pour le coup, ça augmente assez nettement et ça représente quand même aujourd'hui près de 2 millions de personnes en France. C'est cette baisse du taux de chômage. Elle dissimule également, vous en parliez, Pierre Jacquemin, l'explosion du fameux régime des micro-entrepreneurs. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. On parle de ce statut très, très précaire qui permet à une entreprise de faire travailler, par exemple, un livreur ou un coursier, tout ça sans protection sociale. Stéphanie Villers, reste que le chômage baisse, que le gouvernement est très ambitieux. Il parle même de plein emploi, c'est-à-dire de ramener le taux de chômage à 5%. Est-ce qu'il peut continuer à baisser le chômage malgré la guerre en Ukraine, malgré également l'augmentation des coûts de production aujourd'hui ?
On comprend bien que c'est impossible de voir le chômage continuer à baisser dans un contexte, dans une conjoncture aussi heurtée avec autant d'incertitudes. Tant qu'il y aura ces incertitudes et tant qu'il y aura ces freins à la production, eh bien, il n'y aura pas de baisse massive du chômage.
Et est-ce que c'est juste de dire qu'il y a moins de chômage, en effet, mais davantage de précarité, comme on entend notamment de la part des syndicats.
Oui, mais bon, alors c'est toujours, est-ce qu'il vaut mieux être 100% au chômage ou enfin un plein temps au chômage ou à temps partiel, c'est toujours la question. Ce qu'il faut voir, c'est quand même que la France a réussi à faire ce qu'elle n'avait pas réussi à faire auparavant, c'est-à-dire baisser son taux de chômage, même en temps de crise, ce qui est quand même assez inédit dans l'histoire de la France. Mais bien sûr, il reste beaucoup d'emplois précaires, mais et surtout les perspectives. Je pense que 7,4% de la population, enfin de gens au chômage par rapport à la population active, ça reste quand même un niveau qui va rester durant longtemps le meilleur taux qu'on a connu.
Une rapide réaction.
En tout cas, moi, ce que je peux vous dire d'un point de vue purement micro-entreprise, micro-économique, c'est que nous n'avons jamais eu autant de difficultés à recruter. Donc, il y a des tensions sur l'emploi. Aujourd'hui, c'est la demande qui fait l'offre, c'est pas l'offre qui fait la demande. Maintenant, ce que l'on voit
Parce que souvent mal payé.
Plus globalement, ce que l'on voit plus globalement.